Chapitre 26. Les guerres d'Italie. Charles VIII. Louis XI avait eu de la reine sa femme, Charlotte de Savoie, 6 enfants. 3 lui survécurent. Charles VIII, son successeur, Anne, sa fille aînée, qui avait épousé Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, et Jeanne, qu'il avait mariée au duc d'Orléans, qui devint Louis XII. À la mort de leur père, Charles avait 13 ans. Anne 22 ou 23 et Jeanne 19. D'après l'ordonnance de Charles V qui avait fixé à 14 ans la majorité des rois, Charles VIII, à son avènement, était bien près d'être majeur. Mais Louis XI, avec raison, le jugeait très peu capable encore de régner. Il avait au contraire très bonne opinion de sa fille Anne et ce fut à elle bien plutôt qu'au sire de Beaujeu, son mari, que 6 jours avant sa mort et par ses dernières instructions, il confia la garde de son fils, qu'il appelait déjà le roi et le gouvernement du royaume. Ce furent des instructions verbales que n'exprima et ne confirma aucun testament officiel, mais les paroles de Louis XI étaient d'un grand poids même après sa mort. Les opposants ne manquèrent pas à sa dernière volonté. Le duc d'Orléans, Louis, était un prétendant naturel à la régence. Mais Anne de Beaujeu prit sur le champ et sans consulter personne, possession de la charge que lui avait confiée son père. On accepta le fait sans renoncer à le contester. Louis XI ne s'était pas trompé dans son choix. Personne n'était plus propre que sa fille Anne à continuer sa politique sous le règne et le nom de son successeur. Fine femme et déliée s'il en fut honte, dit Brantôme, et vraie image en tout du roi Louis son père. Elle commença par des actes d'une prudence intelligente. Elle essaya non pas de dompter par la force les rivaux et les mécontents, mais de leur donner tort aux yeux du public et de les embarrasser eux-mêmes en les traitant avec une faveur hardie. Son beau-frère, le duc de Bourbon, avait de l'humeur de n'être qu'en apparence et de nom le chef de sa maison. Elle le fit connétable de France et lieutenant général du royaume. Les amis du duc Louis d'Orléans, entre autres son principal confident, Georges d'Amboise, évêque de Montauban, et le comte de Dunois, fils du héros sous Charles VII, soutenaient avec persistance les droits du duc à la régence. Madame, c'était le titre qu'avait pris Anne de Beaujeu, fit le duc Louis gouverneur de l'île de France et de la Champagne et envoya Dunois comme gouverneur en Dauphiné. Elle conserva ceux des conseillers de Louis XI que le public n'avait pas pris tout à fait en haine comme leur maître. Comines seul fut mis à l'écart, comme ayant reçu du feu roi trop de faveurs personnelles et comme trop enclin à la critique indépendante de la nouvelle régence. Deux des serviteurs subalternes et odieux de Louis XI, Olivier Le Dain et Jean d'Auillac, furent poursuivis et l'un pendu, l'autre banni. Son médecin, Jacques Coitier, fut condamné à restituer 50 000 écus sur les dons énormes qu'il avait reçus de son malade. En même temps qu'elle donnait ainsi quelques satisfactions aux colères publiques, Anne de Beaujeu ouvrait les prisons, rappelait les exilés, remettait à la population un quartier de la taille, allégeait les dépenses en congédiant 6 000 Suisses que le feu roi avait pris à sa solde, rétablissait quelque ordre dans l'administration du domaine de la couronne, faisait enfin, soit dans les mesures générales, soit envers les personnes, acte d'impartialité sans complaisance et de fermeté sans rigueur. C'était une femme jeune et courtoise qui mettait sa gloire à signer simplement « Anne de France » en continuant avec respect la politique de son père, vieux roi habile, méfiant et sans pitié. La sagesse d'Anne fut bientôt mise à une grande épreuve. Un cri général s'éleva pour la convocation des États généraux. Les ambitieux espéraient s'ouvrir ainsi le chemin du pouvoir. Le public s'en promettait le retour d'un gouvernement légal. À coup sûr, Anne eût préféré rester plus libre et moins responsable dans l'exercice de son autorité. On était encore bien loin du temps où les assemblées nationales pouvaient être considérées comme une puissance permanente et un moyen régulier de gouvernement. Mais Anne et ses conseillers n'hésitèrent pas. Ils étaient trop sages et trop faibles pour résister à un grand vœu public. Les États généraux furent convoqués à Tours pour le 5 janvier 1484. Le 15, ils se réunirent dans la grande salle de l'archevêché. Autour du trône du roi siégeaient 250 députés que l'arrivée successive des absents porta à 284. La France tout entière, dit M. Picot, se trouvait pour la première fois représentée. La Flandre seule n'envoya ses députés qu'à la fin de la session. Mais la Provence, le Roussillon, la Bourgogne et le Dauphiné s'étaient empressés de joindre leurs mandataires aux délégués des provinces les plus anciennement réunis à la couronne. Nous avons le journal de ces états généraux, rédigé avec précision et détail par l'un des principaux acteurs, Jean Masselin, chanoine et député de Rouen. « Orateur éminent, dit une chronique normande contemporaine, qui prononça pour le bien public, devant les rois et les princes, des discours pleins d'élégance. Je conviens que, comparé à l'emphase érudite de la plupart des orateurs de son temps, le ton oratoire de Jean Masselin ne manque pas d'une certaine élégance. Mais ce n'est pas là son grand et original mérite. Ce qui le distingue et le place assez haut dans l'histoire du XVe siècle, c'est le judicieux et ferme esprit politique qui se manifeste dans sa conduite comme député et dans son récit comme historien. Et ce n'est pas Jean Masselin seul, c'est l'assemblée même dans laquelle il siégeait qui nous apparaît, au bout de 5 siècles, sérieusement animée du patriotique désir d'un gouvernement libre et prêt d'en comprendre et d'en poursuivre les conditions essentielles. Les états généraux, brillants et puissants, n'ont pas manqué à la France. De 1356 à 1789, depuis le règne de Charles V jusqu'à celui de Louis XVI. Mais dans la plupart de ces assemblées, à travers les ambitions et les élans de la liberté, c'est tantôt l'esprit de parti religieux, tantôt l'esprit révolutionnaire qui a dominé et déterminé les actes et les événements. Rien de semblable ne parut dans les états généraux réunis à Tours en 1484. L'Assemblée était profondément monarchique, non seulement en principe général, mais pour la maison régnante et pour le jeune roi assis sur le trône. Point de lutte ardente non plus entre l'aristocratie et la démocratie du temps, entre la société ecclésiastique et la société laïque. Quoique très différents et très séparés, le clergé, la noblesse et le tiers-état n'étaient point, entre eux, à l'état de guerre, même intestine. Une même idée, un même désir animait les trois ordres, à ce point, comme l'a très bien signalé M. Picot, que, dans la plupart des villes, ils procédèrent en commun au choix de leurs députés. Les clercs, les nobles et les bourgeois qui arrivèrent à Tours n'étaient pas les représentants exclusifs du clergé, de la noblesse ou du tiers-état. Ils confondaient en leur personne un triple mandat. Et lorsqu'après avoir examiné ensemble leurs cahiers divers, par l'entremise d'une commission de 36 membres pris en nombre égal dans les trois ordres, ils en vinrent à vouloir faire connaître au gouvernement de Charles VIII leurs griefs et leurs vœux, ils décidèrent qu'un seul orateur serait chargé de résumer en un discours prononcé en séance solennelle le rapport de la commission des 36. Ce fut le chanoine, maître Jean Masselin, qui reçut la mission de parler au nom de tous. Ils avaient tous à cœur une seule et même pensée. Ils voulaient faire de la monarchie ancienne et incontestée un gouvernement légal et libre. Clergé, noblesse et tiers-état, il n'y avait dans leurs âmes ni aspiration révolutionnaire, ni guerre sociale. C'est le propre et beau caractère des états généraux de 1484 de n'avoir eu en vue qu'une grande réforme politique, un régime de légalité et de liberté. Deux hommes, un Normand et un Bourguignon, le chanoine Jean Masselin et Philippe Pau, seigneur de La Roche, ancien conseiller du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, furent les interprètes de cet esprit politique à la fois hardi et prudent, conservateur et réformateur. La souveraineté nationale et le droit des États non seulement à voter les impôts, mais à influer efficacement sur le choix et la conduite des conseillers de la couronne, c'était là ce qu'ils affirmaient en principe et ce qu'en fait ils travaillaient à faire prévaloir. « Je voudrais, dit Philippe de La Roche, vous voir bien convaincu que le gouvernement de l'État est l'affaire du peuple. J'appelle le peuple, non seulement la foule de ceux qui sont simplement sujets de cette couronne, mais encore tous les hommes de chaque État, y compris aussi les princes. » Dès que vous vous considérez comme les députés de tous les états du royaume, pourquoi craignez-vous de conclure que vous avez été surtout appelés pour diriger par vos conseils la chose publique, en quelque sorte vacante, à raison de la minorité du roi? Loin de moi l'intention de dire que le règne proprement dit, la domination passe à quelque autre personne que le roi. C'est seulement l'administration, la tutelle du royaume qui est attribuée, pour un temps, au peuple ou à ses élus. Pourquoi tremblez-vous de mettre la main à la disposition, à l'arrangement et à la nomination du Conseil de la Couronne ? Vous êtes ici pour dire et pour conseiller librement ce que, par l'inspiration de Dieu et de votre conscience, vous croyez utile au royaume. Quel est l'obstacle qui vous empêche d'accomplir une œuvre excellente et si méritoire ? Je n'en trouve aucune, si ce n'est votre faiblesse et la pusillanimité qui intimide vos esprits. Ayez donc, très illustre Seigneur, grande confiance en vous-même, de grandes espérances, une grande vertu, et ne souffrez pas que cette liberté des États, que vos ancêtres mirent tant de zèle à défendre, périclite à cause de votre mollesse. » Ce discours, dit Masselin, fut écouté de toute l'assemblée très attentivement et très favorablement. Appelé à rendre au roi, dans sa chambre particulière, en présence des ducs d'Orléans et de Lorraine, et d'une nombreuse compagnie de nobles, un compte exact des premières délibérations des États, Masselin tint à son tour, avec plus de réserve, un langage analogue à celui du seigneur Philippe de la Roche, dont il partageait les vues et admirait la fière franchise. La question de la composition du Conseil du roi et de la part qui prendraient les États fut pendant 5 semaines la préoccupation dominante dans le gouvernement et dans l'Assemblée. On fit de part et d'autre des concessions qui ne satisfirent ni les États ni la Cour, car elles avaient toujours pour objet, de la part des États, d'exercer dans le gouvernement une influence efficace et, de la part de la Cour, d'éluder l'influence efficace des États. Mais à côté de la question du Conseil du roi, vint aussi se placer celle des impôts. L'entente ne fut pas plus facile à établir. La couronne demandait plus que les États ne croyaient devoir et pouvoir voter. Après une longue et obscure controverse sur les dépenses et les recettes, Masselin fut encore chargé d'exposer au Conseil du roi les observations de l'Assemblée et sa résolution définitive. « Quand nous avons vu, dit-il, que les comptes ou les états susdits contenaient des difficultés extrêmes, que pour les apurer et les vérifier, il faudrait nous soumettre à d'interminables débats et à un travail plus long qu'il n'est avantageux à nous et au peuple, nous nous sommes empressés d'adopter par forme d'expédient, et néanmoins résolument, le parti que je vais dire. Voulant nous conformer largement aux désirs du roi et aux vôtres, nous offrons de payer la somme que le roi Charles VII prenait pour l'impôt des tailles, moyennant toutefois que cette somme soit également et proportionnellement répartie entre les provinces du royaume, et cela sous la forme d'une aide, et que cette contribution n'ait lieu que pour 2 ans, après lesquels les États seront assemblés comme aujourd'hui afin de discuter les besoins publics, que si à cette époque ou auparavant ils en reconnaissent l'avantage, ladite somme sera diminuée ou augmentée. Or, mes dix seigneurs, les députés demandent que le lieu de leur prochaine réunion soit maintenant assigné et déclaré et qu'une décision irrévocable fixe et ordonne cette assemblée. » C'était pour voir en même temps aux besoins du présent et aux droits de l'avenir. L'impôt de la taille fut en effet voté tel qu'il existait sous Charles VII, mais il devenait une aide temporaire accordée seulement pour 2 ans. À ce terme, les États devaient être convoqués et la taxe augmentée ou diminuée selon les besoins publics. La grande question semblait résolue. Par le vote nécessaire et temporaire de l'impôt, les États généraux entraient en possession efficace de l'influence décisive dans le gouvernement. Mais l'attitude et le langage des conseillers de la couronne et des grands seigneurs de la cour rendirent à la situation toute sa difficulté. Dans un discours long et confus, le chancelier Guillaume de Rochefort ne se borna pas à déclarer que la somme votée de 1 200 000 livres était insuffisante et à demander 300 000 livres de plus. Il passa complètement sous silence la limitation à 2 ans de la taxe votée et la nécessité qu'à ce terme les États généraux fussent convoqués. Pendant que le chancelier parlait ainsi, dit Masselin, beaucoup de députés d'une humeur plus indépendante frémissaient et toute la salle retentissait d'un léger murmure parce qu'il semblait qu'il ne s'exprimait pas bien sur la puissance et la liberté du peuple. Les députés demandèrent à délibérer après-midi, promettant une prompte réponse. « Puisque vous voulez délibérer, faites-le, mais brièvement, dit le chancelier. Il vaudrait mieux que vous tinssiez conseil maintenant afin de répondre après-midi. » Les députés prirent leur temps. La discussion se prolongea et s'échauffa. « Nous le voyons bien, disaient les princes et la plupart des grands seigneurs. C'est à écourter la puissance du roi et à lui couper les ongles jusqu'à la chair que tant de vos efforts. Vous défendez au sujet de payer au prince autant que les besoins de l'État l'exigent. Sont-ils donc les maîtres et non plus des sujets ? Vous voulez établir les lois d'une certaine monarchie imaginaire et abolir les anciennes. Je connais les vilains, dit l'un des grands seigneurs. Si on ne les comprime pas en les surchargeant, bientôt ils deviennent insolents. Pour moi, je juge que cette taxe est le frein le plus sûr pour les contenir. Étrange parole, dit Maslin, indigne de sortir de la bouche d'un homme si éminent. Mais dans son âme, comme dans celle de tous les vieillards, la convoitise s'était accrue avec l'âge, et il paraissait craindre la diminution de sa pension. Après avoir délibéré, les États généraux persistèrent dans leur vote d'une taxe de 1 200 000 livres telle qu'elle existait sous le roi Charles, mais pour 2 ans seulement et comme don et octroi, non plus comme taille permanente, et à condition qu'au bout de ce terme, les États seraient nécessairement convoqués. En même temps, cependant, et par-dessus ce « les 10 États », qui désire le bien, honneur, prospérité et augmentation du seigneur roi et de son royaume, et pour lui obéir et lui complaire en toute façon possible, lui accorde la somme de 300 000 livres tournois, pour une fois seulement et sans conséquence, pour son nouvel et joyeux avènement à la couronne de France et pour aider et supporter les frais qu'il convient faire pour son saint sacre couronnement et entrée de Paris. Sur ce nouveau vote, plein de fidélité monarchique en même temps que d'indépendance patriotique, des négociations s'engagèrent entre les États et la Cour. Elles durèrent du 28 février au 12 mars, mais sans résultat. Au fond, la question était posée entre le pouvoir absolu et le gouvernement libre, entre l'arbitraire et la légalité. L'un et l'autre parti étaient décidés à ne pas accepter, sur ce terrain, une défaite sérieuse et définitive. Peu touchés des concessions et des assurances loyales qu'ils recevaient, les conseillers de la couronne ne se préoccupèrent plus que de se débarrasser promptement de la présence des États pour être dispensés de soutenir contre eux la discussion. Les députés ne s'y méprirent point. On étouffait leurs paroles, on éludait de leur répondre. « Monsieur le chancelier, dirent-ils dans une entrevue du 2 mars 1484, si l'on ne nous écoute pas, pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi nous avez-vous appelés ? Retirons-nous. Si vous vous conduisez ainsi, c'est que vous n'avez pas besoin de notre présence. Nous ne nous attendions guère à voir les fruits de nos veilles et les décisions qu'adoptait avec tant de peine une si illustre assemblée, rejetée avec une pareille facilité. » Les plaintes n'étaient pas toujours si modérées. Un théologien que Masselin cite sans le nommer, hardi et fougueux partisan du peuple, dit-il, ajouta ces paroles presque injurieuses. Depuis qu'on a obtenu notre consentement pour la levée des deniers, il est hors de doute que nous sommes joués, que tout a été méprisé, et les demandes insérées dans notre cahier et nos résolutions définitives et les bornes que nous avons établies. Parlons des deniers. Sur ce point, on s'est conformé à nos décisions, seulement pour nous dire « cet impôt ne sera plus appelé taille, ce sera un libre octroi ». Est-ce donc dans les mots et non plus dans les choses que consiste notre travail et le bien de l'État ? Certes, nous aimerions mieux nommer encore cet impôt taille et même maltote, ou lui donner une dénomination encore plus vile, s'il y en a, que de le voir s'accroître démesurément et accabler le peuple. Malédiction de Dieu, exécration des hommes sur ceux dont les actions et les complots ont produit ces malheurs. Ils sont les plus dangereux ennemis du peuple et de la chose publique. » Le théologien brûlé d'envie de continuer, ajoute Maslin. Mais quoiqu'il ne se fût guère écarté de la vérité, beaucoup de députés le grondèrent et le contraignirent de se taire. Déjà l'engourdissement avait saisi les plus considérables d'entre nous. Rassasiés de faveurs et de promesses, ils n'avaient plus cette ardeur de volonté qui les animait au commencement. Quand nous poursuivions les affaires, ils restaient immobiles chez eux. Quand nous parlions en leur présence, ils se taisaient et n'ajoutaient que quelques faibles paroles. Nous perdions notre temps. Le 12 mars 1484, les députés de Normandie, ils étaient au nombre de 25, se trouvaient réunis au Montilles-les-Tours. L'évêque de Coutances leur dit que les États n'avaient pas besoin de rester plus longtemps réunis, qu'il suffisait que chacune des 6 sections nommât 3 ou 4 délégués chargés de suivre les affaires entamées, et que d'ailleurs l'indemnité accordée à tous les députés des États cesserait le 14 mars et ne serait plus allouée qu'à leurs délégués. Cette indemnité avait déjà été dans les États le sujet d'une longue discussion. Le clergé et la noblesse avaient prétendu en faire porter sur le tiers-État toute la charge. Le tiers-État avait très justement réclamé pour que chacun des trois ordres eût sa part proportionnelle dans cette dépense, et le chancelier avait eu quelque peine à faire décider que la chose serait ainsi réglée. Le 14 mars, en effet, les six sections des États se réunirent et élurent chacune trois ou quatre délégués. Les députés furent un peu surpris en entrant dans la salle de leur séance de la trouver complètement démeublée. Tapis, tentures, bancs, bureaux, tout avait été enlevé tant le gouvernement tenait la session pour terminée. Quelques membres choqués pensèrent et soutinrent que les États ne devaient pas se séparer sans emporter les délibérations arrêtées dans leur cahier général, approuvées formellement et accompagnées d'un ordre au juge de les faire exécuter. Mais un bien plus grand nombre, dit Maslin, craignait de rester trop longtemps, et beaucoup de nos collègues, malgré le zèle qu'ils avaient montré autrefois, brûlaient du désir de partir selon le bon plaisir et l'ordre des princes. Pour nous, nous enjoignîmes aux trois délégués de notre nation normande de ne pas s'attacher seulement à certaines affaires particulières qui n'avaient pas encore été terminées, mais de redoubler de sollicitude et de diligence pour tout ce qui intéressait le cahier général et la totalité des États. Ayant ainsi laissé nos mandataires à tour et mis ordre aux affaires, nous partîmes contents et nous prions Dieu que nos travaux et tout ce qui a été fait deviennent utiles au salut du peuple. Ni Maslin, ni ses descendants, pendant plus de quatre siècles, n'étaient destinés à voir les travaux des États généraux de 1484 obtenir des résultats efficaces et durables. L'œuvre qu'ils avaient conçue et tentée était prématurée. L'établissement d'un gouvernement libre exige où les vertus spontanées et simples qui peuvent appartenir à une société petite et jeune, où les lumières, les combinaisons savantes et la sagesse douloureusement acquises et encore si incomplètes des nations grandes et civilisées. La France du XVe siècle n'était ni dans l'un ni dans l'autre de ces États. Mais c'est une belle gloire d'avoir ressenti l'honnête et patriotique ambition qui animait Maslin et ses amis au sortir du despotisme corrompu et corrupteur de Louis XI. Qui oserait dire que leur tentative, vaine pour eux, l'a été aussi pour les générations séparées d'eux par les siècles? Le temps et l'espace ne sont rien dans le mystérieux développement des desseins de Dieu sur les hommes, et c'est le privilège du genre humain de s'instruire et de se former par les souvenirs lointains de sa propre histoire. Je me suis fait un devoir de rendre aux États généraux de 1484 l'hommage auquel ils ont droit, par leur intention et leur effort au service de la bonne cause et malgré leur insuccès. Quand les États généraux se furent séparés, Anne de Beaujeu reprit, sans peine et sans bruit, le gouvernement de la France comme elle avait fait à la mort du roi son père. Elle le garda encore 7 ans, de 1484 à 1491. Durant tout ce temps, elle eut pour rival et pour adversaire Louis, duc d'Orléans, qui devait être un jour Louis XII. « J'ai ouï dire, dit Brantôme, que du commencement, elle lui portait de l'affection, voire de l'amour, de sorte que si M. d'Orléans y eût voulu entendre, il y eût eu bonne part, comme je le tiens de bon lieu, mais il ne s'y put commander, d'autant qu'il la voyait trop ambitieuse et qu'il voulait qu'elle dépendît de lui comme premier prince et le plus proche, et non lui d'elle. » En quoi elle désirait le contraire, car elle voulait tenir le haut lieu et tout gouverner. Ils avaient, ajoute Brantôme, des picotements de jalousie, d'amour et d'ambition. Si l'anecdote de Brantôme est vraie, ce que j'incline à croire, quoique plusieurs historiens l'aient révoqué en doute, Anne de Beaujeu avait sur Louis d'Orléans, dans leurs picotements de jalousie, d'amour et d'ambition, un grand avantage. Ils étaient jeunes, tous deux, et exactement du même âge. Mais Louis avait les défauts de la jeunesse et Anne les qualités de l'âge mûr. Il était beau, léger, inconsidéré, imprévoyant, vaillant, d'un naturel généreux et ouvert avec bonté. Elle était sérieuse, judicieuse, persévérante, probablement un peu froide et dure, telle qu'elle avait dû se former à l'école de son père Louis XI. Dès que la lutte s'engagea entre eux, la diversité de leur caractère apparut et porta ses fruits. Le duc d'Orléans se jeta contre la régente dans toutes sortes d'intrigues et d'aventures, provoquant la guerre civile, se retirant quand il était trop compromis ou trop pressé chez le duc de Bretagne, François II, vassal indiscipliné du roi de France. Louis d'Orléans s'alliait même au besoin avec les souverains ou les princes étrangers. Le roi d'Angleterre, Henri VII, le roi d'Aragon, Ferdinand le catholique, Maximilien, archiduc d'Autriche, sans grand souci des intérêts de sa propre maison royale et de sa patrie. Anne, au contraire, en possession du pouvoir officiel et légal, l'exerçait et le défendait avec prudence et mesure dans l'intérêt de la couronne et de la France, ne prenant jamais l'initiative de la guerre, mais sachant la prévoir et la soutenir et y mettre un terme après la victoire. Elle rencontrait quelquefois à sa cour et tout près d'elle-même une grave difficulté. Le jeune roi Charles VIII était charmé des qualités brillantes du duc d'Orléans, surtout de l'adresse et de la bravoure que Louis déployait dans les tournois. Interrompant un jour l'évêque de Montauban, Georges d'Amboise, qui récitait devant lui ses heures, « Mandez, lui dit le roi, au duc d'Orléans qu'il poursuive son entreprise et que je voudrais bien être avec lui. » Un autre jour, il dit au comte de Dunois, « Mon oncle, emmenez-moi, il me tarde de me trouver hors de cette compagnie. » Dunois et Georges d'Amboise, tous deux partisans du duc d'Orléans, entretenaient avec soin le jeune roi dans ce sentiment favorable au rival de la régente. Des incidents d'une autre sorte vinrent compliquer encore pour Anne de Beaujeu la situation. La fille aînée du duc de Bretagne, François II, appelée aussi Anne, devait hériter de son duché, et elle était à ce titre ardemment recherchée par plusieurs concurrents. Née en 1477, elle avait été, dès l'âge de 4 ans, en 1481, promise en mariage au prince de Galles Édouard, fils du roi d'Angleterre, Édouard IV. Mais deux ans après, en 1483, ce jeune prince fut assassiné, ou emprisonné selon d'autres récits, par son oncle Richard III, qui s'empara de son trône, et la promesse bretonne disparut avec lui. Le nombre des prétendants à la main d'Anne de Bretagne s'accrut rapidement. La politique du duc son père consistait, disait-on, à se faire d'une fille cinq ou six gendres. Vers la fin de 1484, quand le duc d'Orléans, brouillé avec Anne de Beaujeu, se réfugia en Bretagne, plusieurs historiens ont dit non seulement qu'il aspirait dès lors à la main d'Anne de Bretagne, mais qu'il lui fit une cour assidue et obtint d'elle des marques d'une tendre bienveillance. Monsieur le comte d'Arru, dans son Histoire de Bretagne, a mis hors de doute la fausseté de cette assertion. La princesse bretonne n'avait alors que 7 ans, et le duc d'Orléans était marié depuis 8 ans à Jeanne de France, fille cadette de Louis XI. Mais dans les années suivantes, et au milieu des alternatives continuelles de guerre et de négociations entre le roi de France et le duc de Bretagne, Anne de Beaujeu et le duc Louis d'Orléans, la concurrence et la lutte des divers prétendants à la main d'Anne de Bretagne devinrent très actives. Alain, sire d'Albret, dit le Grand parce qu'il passait pour le plus riche seigneur du royaume, le vicomte Jacques de Rohan et l'archiduc Maximilien d'Autriche, se croyaient tous trois des chances de succès et les poursuivaient assidûment. Le sire d'Albret, veuf et déjà père de 8 enfants, avait 45 ans, le visage bourgeonné, le regard dur, la voix rauque, l'humeur querelleuse et chagrine. Pressée de répondre à ses instances, la princesse Anne finit par dire qu'elle se ferait religieuse plutôt que de l'épouser. Malgré ses patrons puissants à la cour de Rennes, Jacques de Rohan fut pareillement écarté. Son père, le vicomte Jean II, était au service du roi de France. L'archiduc Maximilien resta le seul prétendant sérieux. Il avait 29 ans, d'une taille gigantesque, une juste renommée de vaillance et d'habileté à la guerre, et plus de culture dans les lettres qu'aucun des princes ses contemporains, trait de conformité avec la princesse Anne, dont l'éducation avait été fort soignée. Elle témoigna pour lui des dispositions favorables. Le duc d'Orléans, de qui tout marié qu'il était, on associait encore quelquefois le nom à celui de la princesse bretonne, déclara formellement le 26 janvier 1486 que lorsqu'il était venu chez le duc de Bretagne, c'était uniquement pour le visiter et le conseiller en quelques points pour la défense de son duché, mais non pour lui tenir propos de mariage avec les princesses ses filles. Mais pendant que la négociation penchait ainsi vers le prince autrichien, Anne de Beaujeu, toujours prévoyante et active, poussait vivement la guerre contre le duc de Bretagne et ses alliés. Elle avait trouvé dans Louis de la Trémoille un habile et hardi guerrier que Guichardin appelle le plus grand capitaine du monde. En juillet 1488, il entra brusquement en Bretagne, enleva coup sur coup Chateaubriand, Ancenis, Fougères, et le 28, il gagna Saint-Aubin-du-Cormier près de Rennes, sur l'armée du duc de Bretagne et de ses alliés anglais, allemands, gascons, une bataille qui décida de la campagne. 6 000 hommes de l'armée bretonne y furent tués. Le duc Louis d'Orléans, le prince d'Orange et plusieurs seigneurs français, ses amis, y furent faits prisonniers. En recevant à Angers la nouvelle de cette victoire, Charles VIII ordonna que les deux princes captifs lui fussent amenés. Mais Anne de Beaujeu, craignant de sa part quelque élan de générosité trop prompte et trop gratuite, fit tarder leur arrivée, et le duc d'Orléans, conduit d'abord au château de Sablé, puis à Lusignan, alla enfin à la tour de Bourges, où il dut attendre la décision du roi. Le succès était grand pour Anne de Beaujeu. Elle avait vaincu ses ennemis réunis, et le plus redoutable de tous, le duc d'Orléans, était son prisonnier. Deux incidents survenus, l'un peu avant, l'autre peu après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, vinrent à la fois compliquer la situation d'Anne et provoquer vivement son action. Son beau-frère, le duc Jean de Bourbon, chef de sa maison, mourut le 1er avril 1488, laissant à Pierre, son frère cadet, son titre et ses domaines. Devenue ainsi duchesse de Bourbon, mais satisfaite de cette élévation de rang et de fortune, Madame la Grande, c'était le nom populaire d'Anne de Beaujeu, fut un peu moins ardemment préoccupée des affaires du royaume. Elle était moins assidue au conseil du roi. Elle allait quelquefois avec son mari séjourner un peu dans leurs terres. Charles VIII, d'ailleurs près d'arriver à l'âge d'homme, manifestait plus souvent sa volonté personnelle, et Anne, clairvoyante et discrète, quoique ambitieuse, changeait peu à peu sa domination en influence. Mais quelques semaines après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, le 7 ou le 9 septembre 1488, la mort du duc de Bretagne, François II, rendit l'intervention active de la duchesse de Bourbon naturelle et nécessaire. Il laissait sa fille, la princesse Anne, âgée à peine de 18 ans, en butte aux difficultés du gouvernement de son héritage et aux intrigues des prétendants à sa main. Dans l'été de 1489, Charles VIII et ses conseillers apprirent que le comte de Nassau arrivait en Bretagne avec la procuration de l'archiduc Maximilien, avait, par une cérémonie simulée, épousé la princesse bretonne au nom de son maître. Cet étrange mode de célébration ne pouvait donner au mariage son vrai et indissoluble caractère, mais la sollicitude de la cour de France fut vive. On ne faisait plus mystère en Bretagne de l'engagement de la jeune duchesse. Elle prenait le titre de reine des Romains. Charles VIII protesta hautement contre ce prétendu mariage, et pour donner à sa protestation encore plus de gravité, il envoya au roi d'Angleterre Henri VII, qui se mêlait fort des affaires de la Bretagne, des ambassadeurs chargés de lui exposer le droit qu'avait la France de s'opposer au mariage de la jeune duchesse avec l'archiduc Maximilien, tout en ayant soin de ne pas donner à penser que Charles eût à cet égard quelque vue pour lui-même. « Le roi, mon maître, dit l'ambassadeur, se propose de faire valoir par les armes ses droits évidents sur le royaume de Naples, qu'occupe je ne sais quel usurpateur bâtard de la maison d'Aragon. Il ne considère d'ailleurs la conquête de Naples que comme un pont jeté devant lui pour le conduire dans la Grèce, et il est résolu d'y prodiguer son sang et ses trésors quand il devrait mettre sa couronne en gage et épuiser son royaume pour renverser la tyrannie des Ottomans et s'ouvrir par cette voie le royaume des cieux. » Le roi d'Angleterre répondit un peu ironiquement à cette déclaration chevaleresque, demandant seulement si le roi de France consentirait à ne disposer de la main de l'héritière de Bretagne que sous la condition de ne pas l'épouser lui-même. Les ambassadeurs éludèrent de répondre en disant que le roi leur maître était si éloigné de cette pensée qu'elle n'avait pas été prévue dans leurs instructions. Qu'elle eût été ou non prévue et méditée, dès que la réunion de la Bretagne à la France par le mariage de la jeune duchesse Anne avec le roi Charles VIII apparut à l'horizon comme un fait possible et peut-être probable, elle devint le désir, le but, le travail commun de tous les politiques français qui jusque-là avaient été combattus, poursuivis, proscrits. Depuis la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, le duc Louis d'Orléans était captif dans la tour de Bourges et si étroitement gardé qu'on l'enfermait le soir dans une cage de fer pareille à celle du cardinal Labalu, de peur qu'il ne s'échappât. En vain, Jeanne de France, sa femme malheureuse et vertueuse princesse, laide et contrefaite qui n'avait jamais pu obtenir l'affection de son mari, supplia sa sœur toute puissante, Anne de Bourbon, de le mettre en liberté. « Comme je pense incessamment, lui écrivait-elle, à la délivrance de mon mari, je me suis avisée de mettre par écrit la forme à laquelle on pourrait avoir la paix et mon dit mari délivré. Je réécris au roi, et vous verrez le tout. Je vous prie, ma sœur, que vous teniez la main que j'ai en bref réponse. Il m'est bien arrivé en mal de ce que je ne vous vois plus. » Je ne trouve la trace d'aucune réponse d'Anne à sa sœur. Charles VIII avait le cœur plus accessible. Quand Jeanne, en habit de deuil, vint se jeter à ses genoux en lui disant « Mon frère, mon mari traîne sa vie en prison. Je suis tellement troublé que je ne sais pas bien ce que je dois dire pour sa défense. S'il a eu quelques reproches à se faire, je suis la seule qui l'ait outragé. Pardonnez-lui, mon frère. Vous n'aurez jamais une si heureuse occasion d'être généreux. » « Vous l'aurez, ma sœur, lui dit Charles en l'embrassant. Veuille le ciel que vous ne vous repentiez pas un jour de ce que vous faites aujourd'hui pour lui. » Quelques jours après cette entrevue, en mai 1491, Charles, sans en rien dire à la duchesse Anne de Bourbon, partit un soir du Plessis du Parc sous prétexte d'aller à la chasse et, arrivé en Berry, il envoya chercher le duc d'Orléans à la tour de Bourges. Ravi de respirer l'air libre, Louis, du plus loin qu'il aperçut le roi, sauta à bas de son cheval et s'agenouilla en pleurant. Charles, dit le chroniqueur, lui sauta au cou et ne savait quelle chair lui faire pour donner à connaître qu'il agissait de son propre mouvement et libre volonté. Charles connaissait mal et ne comprenait guère sa sœur Anne. Deux convictions étaient entrées dans cet esprit droit et ferme. L'une que, le jour opportun, était venue pour unir la Bretagne à la France et qu'il fallait le saisir. L'autre, que le temps de sa domination personnelle était passé et qu'elle n'avait qu'à se bien établir dans sa nouvelle situation. Elle écrivit au roi son frère pour le prémunir contre les récriminations et les mauvais bruits dont elle pourrait être l'objet. Il lui répondit le 21 juin 1491 « Ma bonne sœur, mamie, Louis de Péquelin m'a informé que vous avez su qu'aucune chose m'ont été rapportée contre vous. » À quoi je lui ai fait réponse que rien ne m'en a été rapporté, et je vous assure que l'on ne m'en oserait parler, car en quelque façon que ce soit, je n'y voudrais ajouter foi, ainsi que j'espère vous dire, quand nous serons ensemble, vous disant adieu, ma bonne sœur, mamie. » Après avoir rassuré sa sœur, Charles entreprit de la réconcilier, ainsi que son mari, le duc de Bourbon, avec son beau-frère, le duc d'Orléans. Louis, d'un naturel franc et point rancunier, comme il le dit, le prouva lui-même plus tard, s'y prêta de bonne grâce, et le 4 septembre 1491, à la flèche, les princes jurèrent entre eux, par leur baptême et la main sur le livre des Évangiles, de se reprendre un amour perpétuel, d'oublier toute ancienne rancune, haines et malveillances pour bien et loyalement servir le roi Charles, garder sa personne et son autorité, et l'aider à soulager le peuple et à mettre en ordre sa maison et son royaume. Les conseillers et les serviteurs furent compris dans la réconciliation des maîtres. Philippe de Comines et l'évêque de Montauban, bientôt archevêque de Rouen, gouverneur de Normandie et cardinal d'Amboise, sortirent de disgrâce, reprirent leur place dans les conseils du roi et se mirent loyalement à l'œuvre pour accomplir, entre Charles VIII et Anne de Bretagne, l'union qui devait être la conquête pacifique de la Bretagne par la France. Quoique pacifique, cette conquête exigea quelques soins et donna quelques peines. De sa personne, Charles VIII n'avait rien de séduisant. Il était petit et mal bâti. Il avait la tête énorme, les yeux gros et blancs, le nez aquilin, plus grand et plus gros qu'il ne convenait, les lèvres grosses aussi et continuellement ouvertes. Des mouvements nerveux, désagréables à voir, la parole lente. À mon jugement, ajoute l'ambassadeur de Venise, Zacharie Contarini, venu à Paris en mai 1492, je tiens que, de corps et d'esprit, il ne vaut pas grand-chose. Cependant, ils en font tous l'éloge à Paris comme étant fort gaillard à jouer à la pomme, à chasser, à jouter, exercice auquel, à tort ou à raison, il consacre beaucoup de temps. Le même ambassadeur dit d'Anne de Bretagne, reine de France depuis 4 mois à cette époque, la reine est petite aussi, maigre, boiteuse d'un pied, mais d'une façon sensible, bien qu'elle cède de chaussures à talons élevés, brunette et fort jolie de visage, et pour son âge fort rusée, de sorte que ce qu'elle s'est une fois mis dans l'esprit, elle le veut obtenir de toute manière, qu'il faille rire ou pleurer pour cela. En même temps que rusée, Anne de Bretagne, était fière et opiniâtre. Elle avait l'esprit cultivé. Elle aimait les arts, la poésie, les lettres anciennes. Elle savait le latin, même un peu de grec. Unie par procuration et de loin à un prince qu'elle n'avait pas vu, mais qu'elle savait grand, bien fait, ami des sciences. Elle répugnait à l'idée de l'abandonner pour un prince sans beauté, sans études, à ce point, dit-on, que lorsqu'il était monté sur le trône, Charles VIII ne savait pas lire. Quand on parlait de lui à la jeune princesse, « Je suis engagé dans les liens du mariage avec l'archiduc Maximilien », disait Anne. Le roi de France, de son côté, est fiancé à la princesse Marguerite d'Autriche. Nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre. Elle allait jusqu'à dire qu'elle voulait partir et aller rejoindre Maximilien. Ses conseillers, devenus presque tous partisans du mariage français, combattirent de leur mieux cette obstination de leur princesse. Ils lui proposèrent d'autres mariages. Anne répondit « Je n'épouserai qu'un roi ou un fils de roi ». Pendant que la question se débattait ainsi à la petite cour de Rennes, l'armée de Charles VIII serrait chaque jour de plus près la ville. Des pourparlers s'engagèrent entre les chefs des deux camps. Le duc d'Orléans pénétra dans Rennes, vit la duchesse Anne et réussit à l'ébranler dans ses refus de mariage français. « Plusieurs assurent, dit le comte Philippe de Ségur, que Charles VIII lui-même entra, seul et sans suite dans la ville qu'il assiégeait, s'entretint avec la jeune duchesse et s'en remit à elle sur leur sort commun, lui déclarant qu'elle était libre et lui son captif, que tous les chemins lui seraient ouverts pour aller en Angleterre ou en Allemagne, si elle le voulait, et qu'il irait, lui en Touraine, attendre sa décision, d'où dépendait, avec le bonheur de son avenir, celui de tout le royaume. Quoi qu'il en soit de ces traditions chevaleresques, un traité fut conclu le 15 novembre 1491, par lequel les deux parties s'en remirent, pour l'examen de toutes les questions qui les intéressaient, à 24 commissaires pris par moitié dans les deux camps. Pour donner à la résolution prévue tous les caractères d'une liberté mutuelle, autorisation fut donnée à la jeune duchesse Anne d'aller rejoindre, si elle le voulait, son fiancé Maximilien en Allemagne. Charles VIII rentra dans Rennes, accompagné de 100 hommes d'armes et de 50 archers de sa garde. 3 jours après, le roi de France et la duchesse de Bretagne furent fiancés secrètement dans la chapelle de Notre-Dame. Le duc d'Orléans, la duchesse de Bourbon, le prince d'Orange, le comte de Dunois et quelques seigneurs bretons furent les seuls témoins de la cérémonie. Dès le lendemain, Charles VIII quitta Rennes et se rendit en Touraine au château de Langeais. La duchesse Anne l'y rejoignit 15 jours après. La jeune princesse Marguerite d'Autriche, que depuis 8 ans on gardait et on élevait à Amboise comme la future épouse du roi de France, fut renvoyée de France et reconduite en Flandre à son père l'archiduc Maximilien, avec tous les honneurs extérieurs qui pouvaient atténuer une pareille injure. Le 13 décembre 1491, le contrat de mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne fut dressé dans la grande salle du château de Langeais, en 2 copies, l'une en français, l'autre en breton. L'évêque d'Albi célébra la cérémonie nuptiale. Par cet acte, si Madame Anne mourait avant le roi Charles VIII et ses enfants issus de leur mariage, elle cédait et transportait irrévocablement à lui et à ses successeurs, roi de France, tous ses droits au duché de Bretagne. Le roi Charles cédait pareillement à Madame Anne ses droits à la possession du dit duché, s'il mourait avant elle, sans enfants légitimes nés de leur mariage. Madame Anne ne pouvait, en cas de veuvage, convoler en seconde noce, or avec le roi futur, s'il lui plaisait et si faire se pouvait, ou avec autre prochain et présomptif futur successeur de la couronne, lequel serait tenu de faire au roi régnant, pour raison du dit duché, les reconnaissances que les prédécesseurs de la dite dame Anne avaient faites. Le 7 février 1492, Anne fut couronnée à Saint-Denis, et le lendemain, 8 février, elle fit son entrée solennelle à Paris, au milieu des joyeuses et sérieuses acclamations publiques. Joie intelligente et légitime, la réunion de la Bretagne à la France était la consolidation de la paix qui, dans ce même siècle, le 17 septembre 1453, avait mis fin à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et le plus grand acte qui resta à accomplir pour la victoire définitive et la constitution territoriale de la nationalité française. Charles VIII était content et fier de lui-même. Il avait fait un mariage brillant et difficile. En Europe et dans sa propre maison, il avait fait acte de puissance et de liberté. Pour épouser Anne de Bretagne, il avait renvoyé Marguerite d'Autriche à son père. Il était allé en personne tirer de prison son cousin Louis d'Orléans, que sa sœur Anne de Beaujeu y avait mis, et loin de s'être brouillé avec elle, il voyait toute la famille royale réconciliée autour de lui. C'était bien des succès pour un jeune prince de 21 ans. Il s'adonna alors avec passion et confiance à son désir de reconquérir le royaume de Naples, qu'Alphonse Ier, roi d'Aragon, avait enlevé à la maison de France, et de se rouvrir par là, en Orient, contre l'islamisme, cette carrière de gloire chrétienne qui avait fait de son aïeul Louis IX un saint. Les hommes médiocres ne sont pas à l'abri des grands rêves qui ont plus d'une fois séduit et perdu les plus grands hommes. En abandonnant la politique prudente et point chevaleresque de son père, le très médiocre fils de Louis XI n'avait nulle chance de devenir un grand guerrier et un saint. Il n'en prit pas moins l'initiative de ces guerres d'Italie qui devaient coûter si cher à ses successeurs et à la France. Par deux traités conclus en 1493, il abandonna au roi d'Aragon, Ferdinand le Catholique, le Roussillon et la Cerdagne, à la maison d'Autriche, la Franche-Comté, l'Artois et le Charolais. Et après avoir acheté à ce triste prix la liberté de ses mouvements, il alla s'établir à Lyon pour préparer de là son aventure napolitaine. Elle trouva dans son conseil de loyaux et habiles contradicteurs. En l'entreprise de ce voyage, dit Philippe de Comines, l'un des assistants, il y eut maintes disputations, car elle semblait à toutes gens sages et expérimentées très dangereuses. Toute chose nécessaire à un si grand dessein y défaillait. Le roi était très jeune, faible personne, plein de son vouloir, peu accompagné de sages gens et de bons chefs, nul argent comptant, ni tente, ni pavillon pour un hiver entrer en Lombardie. Une chose avait-il bonne, c'était une gaillarde compagnie pleine de jeunes gentilshommes, mais en peu d'obéissance. Le premier homme de guerre de France, à cette époque, Philippe de Crèvecœur, maréchal d'Esquerde, s'y opposa avec l'autorité de son âge et de son habileté reconnue. « La grandeur et le repos du royaume, dit-il, dépendent de la possession des Pays-Bas. » C'est de ce côté qu'il faut porter tous nos efforts, bien plutôt que contre un État dont la possession, loin de nous être avantageuse, ne pourrait que nous affaiblir. Malheureusement, dit le dernier savant historien de Charles VIII, le vieux maréchal mourut le 22 avril 1494 dans une petite ville à quelques lieues de Lyon, et dès lors, tout espoir d'arrêter le courant devint chimérique. Le 8 septembre 1494, Charles VIII partit de Grenoble, passa le mont Genèvre et alla coucher à Oulx, qui était en terre de Piémont. Dans la soirée, un paysan, qu'on accusait d'être maître de la vauderie, c'est-à-dire d'être l'un des Vaudois, petite population réformée dans les Alpes entre le Piémont et le Dauphiné, fut amené. Le roi l'entendit, puis le livra au prévôt qui le fit pendre à un arbre. C'est par cet acte de rigueur, exercé en pays étranger, sur un homme qui n'était pas son sujet, que Charles VIII marqua ses premiers pas en Italie. Je n'ai garde de retracer ici, dans ces détails, une guerre qui appartient à l'histoire de l'Italie, bien plus qu'à celle de la France. Je ne veux qu'indiquer avec précision la situation des principaux États italiens à cette époque et les divers parts d'influence qu'ils exercèrent sur le sort de l'expédition française. 6 États principaux. Le Piémont, royaume des ducs de Savoie, le duché de Milan, la République de Venise, la République de Florence, Rome et le pape, et le royaume de Naples coexistaient en Italie à la fin du XVe siècle. En août 1494, quand Charles VIII partit de Lyon pour son expédition italienne, le Piémont était gouverné par Blanche de Montferrat, veuve du duc de Savoie, Charles le Guerrier, au nom de son fils Charles-Jean Amédée, enfant de 6 ans. Dans le duché de Milan, le pouvoir était aux mains de Ludovic Sforza, dit le mort, ambitieux sans foi, ni loi, ni scrupule, qu'il exerçait en reléguant à Pavie le duc légitime, son neveu Jean Galéas Marie Sforza, de qui l'ambassadeur florentin disait à Ludovic lui-même « Ce jeune homme me paraît bon et animé de bons sentiments, mais très incapable d'esprit. Il devait mourir bientôt, probablement empoisonné. » La République de Venise avait pour doge, à cette époque, Augustin Barbarigo, et c'était au Conseil des Dix qu'en matière d'affaires étrangères, comme de haute police politique, appartenait réellement le pouvoir. Pierre de Médicis, fils de Laurent de Médicis, le père des muses, gouvernait faiblement et étourdiment, quoique avec des prétentions et des airs despotiques, la République de Florence. Rome avait pour pape Alexandre VI, Rodrigue Borgia, prince cupide, licencieux, effrontément variable et déloyal dans sa politique, et qu'on regarderait comme l'un des hommes les plus corrompus du XVe siècle s'il n'avait eu César Borgia pour fils. À Naples, enfin, en 1494, 3 mois avant le jour où Charles VIII entrait en Italie, le roi Alphonse II montait sur le trône. Nul homme, dit Comines, n'a été plus cruel que lui, ni plus mauvais, ni plus vicieux et plus infect, ni plus gourmand, moins dangereux pourtant que son père, le roi Ferdinand, lequel prenait et trahissait les gens en leur faisant bonne quière, c'est-à-dire bonne mine, comme mon comté de ses prochains et amis, et qui n'avait jamais eu aucune pitié ni compassion de son pauvre peuple. Tels étaient, en Italie, royaumes ou républiques, les chefs d'État auxquels Charles VIII devait avoir affaire, en allant, au nom d'un droit contesté, chercher à 300 lieues de son royaume une inutile et fugitive conquête. L'accueil qu'il rencontra au début de son entreprise ne pouvait que le confirmer dans les illusions de ses espérances. Pendant qu'il était à Lyon, occupé de préparer son départ, le duc Charles de Savoie, dont le territoire était le premier qu'il dut traverser, vint le voir pour une affaire personnelle. « Mon cousin, mon ami, lui dit le roi, je suis enchanté de vous voir à Lyon, car si vous eussiez tardé à venir, je m'étais proposé de vous aller voir moi-même, en très nombreuses compagnies, dans vos états, où il est vraisemblable qu'une telle visite n'eût pu que vous causer du dommage. « Monseigneur, lui répondit le duc, tout mon regret à votre arrivée dans mes états serait de ne pouvoir vous y faire l'accueil que méritent aussi grands princes que vous. Du reste, soit ici, soit ailleurs, je serai toujours prêt à vous prier de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, comme de tout ce qui peut dépendre de vos sujets. » Le duc Charles de Savoie n'en avait pas trop dit. Il ne vivait plus. En septembre 1494, lorsque Charles VIII fit demander à sa veuve Blanche, régente au nom de son fils enfant, le passage libre de l'armée française sur son territoire. Non seulement elle lui accorda ce qu'il demandait, mais quand il entra à Turin, elle lui fit faire la même réception qu'il eût pu trouver dans les plus grandes villes de France. Il admira les magnifiques bijoux dont elle était parée. Elle lui offrit de les lui prêter. Il les accepta et emprunta peu après sur ce gage 12 000 ducats d'or, tant il était mal pourvu d'argent. La régente lui fit en outre présent d'un beau cheval noir, que Comines appelle le meilleur du monde, et que 10 mois plus tard, Charles montait à la bataille de Fornoux, la seule victoire qu'il dut remporter en se retirant de cette triste campagne. Il n'éprouva pas, en entrant dans le Milanais, la même confiance que lui avait inspirée le Piémont. Non que Ludovic le Mort hésitât à lui prodiguer les assurances de dévouement. « Sire, lui dit-il, ne craignez point cette entreprise. Il y a en Italie 3 puissances que nous tenons grandes et dont vous avez l'une, qui est Milan, l'autre ne bouge, qui sont les Vénitiens. Ainsi, vous n'avez affaire qu'à celle de Naples, et plusieurs de vos prédécesseurs nous ont battus quand nous étions tous ensemble. Quand vous me voudrez croire, je vous aiderai à vous faire plus grand que ne fut jamais Charlemagne. Et quand vous aurez ce royaume de Naples, nous chasserons aisément ce Turc hors de cet empire de Constantinople. » Ces paroles plaisaient fort à Charles VIII, et il eût volontiers ajouté pleine foi. Mais il avait auprès de lui quelques personnes plus clairvoyantes, et Ludovic avait des ennemis qui ne se faisaient faute d'éclairer le roi sur son compte. Il invita Charles à visiter Milan. Il désirait faire parade aux yeux des peuples de l'alliance et de l'amitié intime du puissant roi de France. Mais Charles, qui l'avait d'abord traité en ami, changea tout à coup de manière et refusa d'aller à Milan pour ne pas perdre du temps, dit-il. Ludovic était trop avisé pour s'y tromper. Il n'insista point. Charles se remit en route pour Plaisance où son armée l'attendait. À Pavie, les vœux, les harangues, les félicitations, les protestations de dévouement lui furent prodigués sans lui rendre confiance. On avait marqué son logement dans la ville. Il voulut habiter le château qui était en état de défense. Sa garde prit possession des portes. Le guet fut doublé pendant la nuit. Ludovic parut n'y faire aucune attention et continua d'accompagner le roi jusqu'à Plaisance, dernière ville de l'état milanais. Charles y entra avec 7800 chevaux, beaucoup de fantassins suisses, d'artilleurs, de bombardiers. La population italienne contemplait cette armée avec une admiration timide et inquiète. On apprit là que le jeune Jean Galéas, neveu de Ludovic le Mort et duc légitime de Milan, était mort. Il laissait un fils de 5 ans pour lequel il avait imploré à Pavie la protection du roi. « Je le regarderai comme mien », avait répondu Charles en caressant l'enfant. Ludovic partit en hâte pour Milan, et l'on ne tarda pas à savoir qu'il avait été proclamé duc et investi de la possession du duché. La méfiance devint générale dans l'armée. Ceux qui le devaient bien savoir m'ont rapporté, dit Comines, que plusieurs qui avaient d'abord loué le voyage, maintenant le blâmaient, et qu'on fut en grand vouloir de retourner. On continua cependant de marcher en avant. Et le 29 octobre 1494, l'armée française campa devant Sarzane, ville florentine. Ludovic le Mort arriva brusquement au camp, faisant de nouvelles propositions d'alliance à de nouvelles conditions. Charles en accepta quelques-unes et repoussa les principales. Ludovic repartit le 3 novembre pour ne plus revenir. De ce jour, le roi de France put le compter au nombre de ses ennemis. C'était à la République de Florence que Charles allait désormais avoir affaire. Son chef, Pierre de Médicis, arriva au camp de Sarzane et Philippe de Comines partit comme ambassadeur pour aller négocier avec le Doge et le Sénat de Venise, la première des puissances italiennes et dont le territoire était bien loin de la route du roi de France et de son armée. Devant Charles VIII et au milieu de ses troupes, Pierre de Médicis s'embarrassa et se troubla. Il était venu au-devant du roi à l'insu des Florentins et déjà intimidé par la gravité de la situation. Il offrit plus de soumission et de concessions qu'on ne lui en demandait. « Ceux qui traitaient avec lui, dit Comines, m'ont conté, en se raillant et se moquant de lui, qu'ils étaient ébahis comme sitôt il accorda si grande chose, et à quoi ils ne s'attendaient point. » L'émotion fut extrême à Florence, quand on y apprit ses faiblesses. Un parti nombreux et puissant, les républicains et les jaloux, étaient très hostiles aux Médicis. Ils saisirent avec empressement l'occasion de les attaquer. Une députation formée des hommes les plus considérables de la ville fut envoyée le 5 novembre au roi de France, avec mission d'obtenir de lui des conditions meilleures. Le dominicain Jérôme Savonarole, l'oracle populaire de Florence à cette époque, en faisait partie. Pieusement hautain par nature et par habitude, il prit avec Charles VIII le même ton qu'avec le peuple florentin. « Écoute mes paroles, lui dit-il, et grave-les dans ton cœur. Je t'avertis, au nom de Dieu, que tu dois te montrer miséricordieux et épargner le peuple de Florence, si tu veux qu'il te seconde dans tes entreprises. » Charles, qui savait à peine le nom de Savonarole, répondit simplement qu'il ne voulait faire aucun tort aux Florentins, mais qu'il demandait le libre passage et tout ce qui lui avait été promis. « Je veux être reçu à Florence, ajouta-t-il, pour y signer un traité définitif qui arrangera toutes choses. » Sur ces froides paroles, les ambassadeurs se retirèrent un peu inquiets. Pierre de Médicis, frivolement confiant, retourna à Florence le 8 novembre et tenta d'y ressaisir le pouvoir. Une violente sédition éclata. Pierre fut aussi faible devant le peuple florentin que devant le roi de France. Poursuivi jusque dans son palais, qui fut livré au pillage, il ne put sortir de la ville, le 9 novembre, que déguisé en moine avec ses deux frères, Julien et le cardinal Jean de Médicis, qui devait, 10 ans plus tard, être le pape Léon X. Pierre et ses frères chassés, les Florentins s'empressèrent de se réconcilier avec Charles VIII. Par ses traditions politiques et les penchants populaires, la République florentine était favorable à la France. Charles, irrité de ce qui venait de se passer, se montrait peu disposé à entrer avec eux en négociation, mais les plus sages conseillers lui représentèrent que, pour accomplir son entreprise et marcher avec sûreté sur Naples, il avait besoin du bon vouloir de Florence. Les nouveaux magistrats florentins lui promettaient le meilleur accueil dans leur ville. Charles y entra le 17 novembre 1494, à la tête de toute son armée. La réception officielle et populaire fut en effet magnifique. On reprit la négociation. Charles y fut d'abord très exigeant. Les négociateurs florentins se récrièrent. L'un d'eux, Pierre Caponi, homme d'un grand esprit et d'un grand cœur, dit Guichardin, très estimé dans Florence pour ses qualités et issu d'une famille qui avait été puissante dans la République, entendant lire les conditions excessives qu'on leur proposait de la part du roi, se leva brusquement, prit le papier des mains du secrétaire et le déchira sous les yeux du roi en disant « Puisque vous nous imposez des choses si déshonorantes, faites sonner vos trompettes, nous ferons sonner nos cloches. » Et il sortit de la chambre avec ses compagnons. Charles et ses conseillers se ravisèrent. On se fit des concessions mutuelles. Un traité conclu le 25 novembre assura au roi de France le libre passage dans toute l'étendue de la République et une somme de 120 000 florins d'or pour concourir au succès de l'entreprise de Naples. La commune de Florence s'engagea à révoquer la mise à prix de la tête de Pierre de Médicis ainsi que la confiscation de ses biens. L'honneur comme la sûreté des deux parties contractantes ainsi satisfaits, Charles VIII quitta Florence le 28 novembre et prit avec son armée la route de l'État romain. Entré le 7 décembre 1494 à Aquapendente et le 10 à Viterbe, il reçut là dès le lendemain un message du pape Alexandre VI qui lui faisait offrir en son propre nom et au nom du roi de Naples, Alphonse II, 1 million de ducats pour l'indemniser des frais de la guerre et 100 000 livres par an, à la condition qu'il abandonnerait son entreprise sur le royaume de Naples. « Je ne veux point d'accord avec l'usurpateur aragonais, » répondit Charles. « Je traiterai directement avec le pape quand je serai à Rome, où je compte entrer vers Noël. Je lui ai déjà fait connaître mes intentions. Je lui enverrai incessamment des ambassadeurs chargés de les renouveler. » Il lui envoya en effet le plus vaillant de ses guerriers, Louis de la Trémoille, lequel y fut, dit le chroniqueur contemporain Jean Boucher, avec des orateurs qui, après avoir pompeusement rappelé au pape toute l'histoire de la royauté française dans ses relations avec la papauté, finirent par ces paroles. « Vous prie le roi, mon souverain seigneur, que vous ne lui donniez occasion d'être à son grand regret le premier de son lignage qui ait eu guerre et discord avec l'Église romaine, de laquelle lui et les rois de France chrétiens, ses prédécesseurs, ont été protecteurs et augmentateurs. Plus brièvement et avec une apparence de bienveillance triste, le pape répondit à l'ambassadeur. « S'il plaît au roi Charles, mon premier fils spirituel, d'entrer en ma cité, sans armes, en humilité, il sera le très bienvenu. Mais fort m'ennuierait que l'armée de ton roi y entra, parce que sous ombre d'Icelle, qu'on dit être fort grande et tumultueuse, les factions et bandes de Rome se pourraient élever et faire bruit et scandale, de quels grands inconvénients pourraient advenir aux citoyens. » Pendant 3 semaines, le roi et le pape donnèrent le spectacle trop commun dans l'histoire de l'hypocrisie de la force aux prises avec l'hypocrisie de la foi. Le pape sentit enfin la nécessité de céder. Il fit appeler le prince Ferdinand, fils du roi de Naples, et lui annonça qu'il ne pouvait rester plus longtemps à Rome avec les troupes napolitaines, car le roi de France y voulait absolument entrer. Il lui remit en même temps un sauf-conduit de la main de Charles. Ferdinand refusa le sauf-conduit et s'agenouilla devant le pape en lui demandant sa bénédiction. « Relevez-vous, mon cher fils, » lui dit le pape. « Allez, ayez bonne espérance. Dieu nous viendra en aide. » Les Napolitains partirent et le 1er janvier 1495, Charles VIII entra dans Rome avec son armée, disant gentiment, selon Brantôme, que dès longtemps il avait fait un vœu à M. Saint-Pierre de Rome et que nécessairement il fallait qu'il l'accomplît au péril de sa vie. « Le voilà donc entré dans Rome, » continue Brantôme, « bravant et triomphant, lui-même armé de toutes pièces, la lance sur la cuisse, comme s'il eût voulu aller à la charge, marchant en ce bel et furieux ordre de bataille, trompette sonnante et tambourin battant. Il entre et loge par la main de ses fourriers, là où il lui plaît, fait asseoir ses corps de garde, pose ses sentinelles par les places et cantons de la noble ville, avec forces rondes et patrouilles, fait planter ses justices et potences en 5 ou 6 endroits, ses édits et ordonnances publiées et criées à son de trompe comme dans Paris. Allez-moi trouver jamais roi de France qui ait fait de ses coups fort Charlemagne. Encore pensais-je qu'il n'y procéda pas d'une autorité si superbe et si impérieuse. Que restait-il donc à ce grand roi de plus, sinon qu'il s'impatronisa bien à plein de cette glorieuse ville qui avait dompté tout le monde autrefois, comme cela était en sa puissance et comme peut-être il l'eût bien voulu, selon son ambition et selon quelques-unes de son conseil qui l'y poussait fort, quand ce n'eût été que pour se tenir sur ses gardes. Mais tant s'en faut. Le violement de la sainte religion le retira, et le reproche qu'on lui eût pu faire d'avoir offensé sa sainteté, bien qu'elle lui en eût donné l'occasion. Il lui rendit au contraire tout honneur et obéissance, en lui baisant en toute humilité sa pantoufle. Je n'hésite pas à citer ce fragment de Brantôme, car c'est le tableau le plus vrai et le plus frappant de l'état des faits et des esprits dans cette passagère rencontre d'un roi follement aventureux et d'un pape effrontément fourbe. Ils passèrent ainsi 4 semaines à Rome, le pape retiré d'abord au Vatican, puis dans le château de Saint-Ange, et Charles maître dans la ville, qui, dans un accès d'humeur et de méfiance mutuelle, fut un jour livré au pillage et aux violences des soldats. Le 15 janvier, enfin, un traité fut conclu qui régla les relations pacifiques des deux souverains et assura à l'armée française le libre passage dans les états de l'Église, en allant à Naples comme en revenant, et la possession provisoire de la ville de Civita Vecchia, sous la condition qu'elle serait rendue au pape quand le roi retournerait en France. Les 16 et 19 janvier, le pape et le roi eurent 2 entrevues, l'une particulière, l'autre publique, dans lesquelles ils se renouvelèrent les engagements et se rendirent l'un à l'autre les honneurs convenus. On apprit que le 23 janvier, le roi aragonais de Naples, Alphonse II, avait abdiqué en faveur de son fils Ferdinand II. Et le 28 janvier, Charles VIII prit solennellement congé du pape, reçut sa bénédiction et quitta Rome comme y était entré, à la tête de son armée, plus confiant que jamais dans le succès de l'expédition qu'il allait poursuivre. Le nouveau roi de Naples, Ferdinand II, qui ne manquait pas d'activité ni de courage, cherchait partout, au-dedans et au-dehors, des forces et des alliés contre l'invasion imminente. Il écrivit au duc de Milan. Souvenez-vous que nous sommes tous deux du même sang. Il est bien désirable qu'une ligue se fasse très promptement entre le pape, les rois des Romains et d'Espagne, vous et Venise. Si ces puissances étaient unies, l'Italie n'aurait rien à redouter de personne. Donnez-moi votre appui, j'en ai le plus grand besoin. Si vous me secondez, je vous devrai la conservation de mon trône et je vous honorerai comme mon père. Il ordonna à l'envoyé napolitain à Constantinople de rappeler au sultan Bajazet les secours qu'il avait promis au roi Alphonse, son père. Le temps presse, le roi de France lui-même s'avance vers Naples, sollicité avec instance, importuné s'il le faut, pour que l'armée turque passe la mer sans retard. Assistez vous-même à l'embarquement des troupes, agissez, courez, volez. Il courait lui-même dans tout son royaume, s'efforçant de ranimer un peu d'affection et d'espérance. Il ne réussissait nulle part. Les souvenirs du roi son père étaient odieux. Il était lui-même jeune et sans autorité. Son ardeur faisait peur au lieu d'émouvoir. Charles avançait dans le royaume à travers les populations immobiles quand elles ne s'empressaient pas de l'accueillir. La garnison de Monte San Giovanni, la meilleure place de la frontière, voulut résister. La place fut emportée d'assaut en quelques heures et les assaillants, dit un chroniqueur français, firent sans pitié ni miséricorde, main basse sur tous ces pillards et malfaiteurs dont ils jetèrent les corps par-dessus les murailles. Le carnage dura 8 heures entières. Quelques jours après, Charles arriva avec sa garde devant San Germano. Le clergé l'attendait à la porte de la ville avec croix et bannière. Des notables portaient un dé sous lequel il prit place. Hommes, femmes et enfants le suivaient, chantant ce verset du psalmiste « Benedictus qui venis in nomine Domini, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La ville de Capoue passait pour très attachée à la maison d'Aragon. Jean-Jacques Trivuls, vaillant capitaine milanais qui avait trouvé à Naples asile et fortune, y commandait. Le roi Ferdinand s'y porta. « Je vais chercher des troupes à Naples, dit-il aux habitants. Attendez-moi avec confiance. Si demain soir vous ne me voyez pas revenir, « accommodez-vous avec le roi Charles, je vous y autorise. » Arrivé à Naples, il dit au Napolitain, « Tenez 15 jours, je n'exposerai pas la capitale de mon royaume à être forcée par des barbares. Si d'ici à 15 jours, je n'ai pas empêché l'ennemi de passer le Volturne, vous pourrez lui demander à capituler. » Et il repartit pour Capoue. En vue des remparts, il apprit que dès la veille, avant la nuit, les Français avaient été reçus dans la ville. Trivuls était allé trouver le roi Charles à Théano et lui avait offert au nom de sa troupe et des habitants de rendre Capoue. Il avait même ajouté, dit Guijardin, qu'il ne désespérait pas de faire venir à composition le roi Ferdinand lui-même si une situation convenable lui était assurée. « J'accepte volontiers l'offre que vous me faites au nom de vos troupes et des Capouans, lui répondit Charles. Quant au prince aragonais, il sera bien reçu s'il vient vers moi, mais qu'il sache que pas un pouce de terrain ne lui sera laissé dans ce royaume. C'est en France qu'il obtiendra des honneurs et des beaux domaines. » Le 18 février, Charles entra dans Capoue aux acclamations du peuple, et le même jour, Trivulle se passa à son service avec 100 lances. Retourné à Naples, Ferdinand trouva les portes fermées et ne put entrer au Château-Neuf que par une poterne. En ce moment même, la populace pillait ses écuries. Il descendit de la forteresse, adressa à la foule réunie sous les remparts des paroles amères et tristes, où il s'efforça de mêler quelque espérance, prit quelques mesures pour que les deux forts de Naples, le Château-Neuf et le Château de l'Œuf, se défendissent encore quelques jours. Et le 23 février, il se réfugia dans l'île d'Ischia, répétant tout haut, aussi longtemps qu'il eut Naples en vue, ce verset du psalmiste « Si le Seigneur lui-même ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. » À Ischia même, il eut affaire, dit Guichardin, une nouvelle expérience de son courage et de l'ingrate infidélité qui éclate contre ceux que la fortune abandonne. Le gouverneur de l'île ne voulait le recevoir qu'accompagné d'un seul homme. Le prince, dès qu'il fut entré, se jeta sur lui, le poignard à la main, avec une telle violence et un tel élan d'autorité royale que toute la garnison, stupéfaite, se soumit et lui remit le fort et son rocher. La veille même du jour où le roi Ferdinand II prenait ainsi dans l'île d'Ischia son dernier refuge, Charles VIII entrait triomphalement dans Naples à la tête de ses troupes, à cheval sous un poil de drap d'or porté par 4 grands seigneurs napolitains, et reçut, dit Guichardin, avec des acclamations et une allégresse qu'on tenterait vainement de décrire. Incroyable exaltation d'une foule de tout sexe, de tout âge, de toute condition, de toute qualité, de tout parti, comme s'il eût été le père et le premier fondateur de la cité. Et le grand historien français en rend le même témoignage que le grand historien italien. « Jamais, dit Comines, peuple ne montra tant d'affection à roi ni à nation comme ils montrèrent au roi et pensaient tous être hors de tyrannie. » À ces nouvelles, l'inquiétude et l'irritation des principales puissances italiennes éclatèrent à Venise aussi bien qu'à Milan et à Rome. Le Sénat vénitien, aristocratie prudente, quoique vigilante, avait gardé jusque-là une attitude expectante et presque bienveillante pour la France. Ils espéraient que Charles VIII serait arrêté ou s'arrêterait de lui-même dans sa folle entreprise, sans qu'ils fussent obligés d'intervenir. Le doge Augustin Barbarigo vivait en très bonne relation avec Comines, qui désirait comme lui que le roi son maître redevint sage. Comines était destiné à apprendre combien il est difficile et triste d'avoir à servir une politique qu'on désapprouve. Quand il pressentit qu'une ligue était près de se former en Italie contre le roi de France, il en informa sur le champ son maître et il essaya d'en détourner les Vénitiens. Ils nièrent qu'ils en eussent dessein et se montrèrent disposés à former, de concert avec les rois de France, d'Espagne et des Romains et toute l'Italie, une ligue contre les Turcs, pourvu que Charles VIII consentît à laisser le roi de Naples en possession de son royaume, en y gardant lui-même 3 places et en recevant une somme d'argent comptant dont Venise ferait l'avance. « Plût à Dieu, dit Comines, que le roi eût voulu entendre alors. De tout je l'avertis et j'eus maigre réponse. » Quand les Vénitiens apprirent que le roi était dans Naples et que le château fort, dont ils avaient eu bonne espérance qu'il tiendrait, était rendu, ils m'envoyèrent quérir un matin, mais je les trouvai en grand nombre, comme de 50 ou 60, en la chambre du prince, le doge, qui était malade. Les uns étaient assis sur un marchepied des bancs et avaient la tête appuyée entre leurs mains, les autres d'une autre sorte, tous démontrant avoir grande tristesse au cœur. Et je crois que quand les nouvelles vinrent à Rome de la bataille perdue à Cannes contre Hannibal, les sénateurs qui étaient demeurés n'étaient pas plus ébahis ni plus épouvantés que ceux-ci n'étaient. Car pas un ne fit semblant de me regarder, ni ne me dit un mot, sinon le duc, le doge, qui me demanda si le roi leur tiendrait ce que toujours il leur avait mandé et ce que je leur avais dit. Je les assurai fort que oui, et j'ouvris les voies pour demeurer en bonne paix, espérant les ôter de soupçons, et puis je m'en départis. La ligue fut conclue le 31 mars 1495 entre le pape Alexandre VI, l'empereur Maximilien Ier comme roi des Romains, le roi d'Espagne, Ferdinand d'Aragon, les Vénitiens et le duc de Milan. À 3 fins, dit Comines, pour défendre la chrétienté contre les Turcs, pour la défense de l'Italie et pour la préservation de leurs États. « Il n'y avait rien contre le roi, me dirent-ils, mais c'était pour se garder de lui. » Il ne voulait point qu'il abusât ainsi le monde de paroles en disant qu'il ne voulait que le royaume ait pu aller contre le Turc, tandis qu'il montrait tout le contraire. Je demeurai en la ville environ un mois depuis, aussi bien traité que devant, et puis je m'en partis, mandé par le roi, et conduit en bonne sûreté à leurs dépens jusqu'à Ferrare, d'où j'allai à Florence pour attendre le roi. Quand Ferdinand II se fut réfugié dans l'île d'Ischia, et qu'à Naples, le château neuf et le château de l'œuf se furent rendus, Charles VIII, se considérant comme en possession du royaume, annonça son intention et eut, je crois, réellement le dessein de retourner en France sans pousser plus loin ses prétentions conquérantes. Le 20 mars, avant que la Ligue italienne fût définitivement conclue, Brissonnet, cardinal de Saint-Malo, qui avait accompagné le roi dans toute son expédition, écrivait à la reine Anne de Bretagne. « Sa Majesté se diligente le plus qu'elle peut pour s'en retourner par-delà, et il m'a donné charge expressément, pour ma part, d'aider à dépêcher ses affaires. J'espère qu'il pourra partir d'ici vers le 8 avril. Il laissera par-de-ça, pour lieutenant, monseigneur de Montpensier, avec 1 000 ou 1 200 lances, tant françaises que de ce pays, 1 500 suisses et 1 000 arbalétriers français. » Charles écrivait lui-même le 28 mars à son beau-frère, le duc de Bourbon, qu'il monterait à cheval aussitôt après la Quasimodo pour rentrer en France sans s'arrêter ni séjourner en aucun lieu. Mais Charles, en parlant et en projetant ainsi, oubliait son indolence étourdie, ses goûts frivoles et ses passions de fêtes théâtrales et de plaisirs licencieux. Le climat, le pays, les mœurs de Naples le charmaient. « Vous ne pourriez croire, écrivait-il au duc de Bourbon, les beaux jardins que j'ai en cette ville. Sur ma foi, il me semble qu'il n'y faille qu'Adam et Ève pour en faire un paradis terrestre, tant ils sont beaux et pleins de bonnes et singulières choses, comme j'espère vous en compter. Avec ceux, j'ai trouvé en ce pays des meilleurs peintres. Je vous en enverrai pour faire d'aussi beaux planchers, c'est-à-dire des plafonds, qu'il est possible. Les planchers de Beauce, de Lyon et d'autres lieux de France ne sont en rien approchant ceux-ci de beauté et de richesse. C'est pourquoi je m'en fournirai et les mènerai avec moi pour en faire à Amboise. » La politique disparut devant ces fantaisies royales. Charles VIII demeura près de 2 mois à Naples, après que la Ligue italienne eut été conclue et pendant qu'elle faisait contre lui ses préparatifs, uniquement préoccupé de jouir, dans son beau royaume précaire, de toutes sortes de plaisances mondaines, comme dit son conseiller, le cardinal de Saint-Malo, et de donner des fêtes à ses nouveaux sujets, aussi disposés que lui à tout oublier en s'amusant. Le 12 mai 1495, toute la population de Naples et des campagnes voisines fut sur pied dès le matin pour voir son nouveau roi entrer solennellement comme roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, avec sa cour napolitaine et son armée française. Charles était à cheval, sous un riche dé porté par 2 grands seigneurs napolitains. Il avait une couronne fermée sur la tête, le sceptre dans la main droite, un globe d'or dans l'autre main. À la tête de ce brillant cortège, il parcourut les principales rues de la ville, s'arrêtant aux 5 cercles de la noblesse, où les gentilshommes et leurs femmes, qui s'y étaient rassemblés, le retinrent longtemps, en lui demandant de vouloir bien donner, de sa main, à leur fils, l'ordre de chevalerie, ce qu'il accorda volontiers. Il se rendit enfin à l'église cathédrale de Saint-Janvier que venait de reconstruire, après le tremblement de terre de 1456, Alphonse Ier d'Aragon. L'archevêque, à la tête de son clergé, vint à sa rencontre et le conduisit devant le maître-autel où était exposé le chef de Saint-Janvier. Toutes ces solennités royales accomplies, à la grande satisfaction de la population, on alluma pendant 3 jours des feux de joie. La ville fut illuminée, et 8 jours après seulement, le 20 mai 1495, Charles VIII partit de Naples pour retourner en France, avec son armée forte tout au plus de 12 000 à 15 000 hommes, laissant pour lui garder son nouveau royaume son cousin Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, vaillant mais indolent chevalier, qui ne se levait, dit-on, qu'à midi, avec 8 000 ou 10 000 hommes, en grande partie dispersés dans les provinces. Pendant les mois d'avril et de mai ainsi perdus par Charles VIII, la Ligue italienne, surtout les Vénitiens et le duc de Milan, Ludovic le Mort, avaient vivement poussé leurs préparatifs de guerre et déjà rassemblé une armée plus nombreuse que celle avec laquelle le roi de France, pour rentrer chez lui, allait avoir à traverser toute l'Italie. Il mit plus de 6 semaines à faire cette traversée, passant 3 jours à Rome, 4 à Sienne, autant à Pise, 3 à Lucques, quoiqu'il eût annoncé qu'il ne s'arrêterait nulle part. Il évita d'entrer à Florence, où il avait fait des promesses qu'il ne pouvait ni rétracter ni accomplir. Le dominicain Savonarole, qui avait toujours prêché en grande faveur du roi, dit Comines, et par sa parole avait gardé les Florentins de tourner contre nous, vint le voir à son passage à Poggibonsi. Je lui demandai, dit Comines, si le roi pouvait passer sans péril de sa personne, vu la grande assemblée que faisaient les Vénitiens. Il me répondit que le roi aurait affaire en chemin, mais que l'honneur lui en demeurerait, n'eût-il que 100 hommes en sa compagnie. Mais, pour ne s'être bien acquitté à la réformation de l'Église, comme il devait, et avoir souffert que ces gens pillassent et volassent le peuple, Dieu avait donné une sentence contre lui, et bref, il aurait un coup de fouet. Plusieurs historiens contemporains affirment que si l'armée italienne formée par les Vénitiens et le duc de Milan s'était opposée à la marche de l'armée française, elle eût pu la mettre en grand péril. Mais rien ne fut tenté à cet effet. Ce fut au passage des Apennins, pour les traverser et descendre dans le duché de Parme, que Charles VIII eut à vaincre pour la première fois la résistance non pas des hommes, mais de la nature. Il traînait à sa suite une nombreuse et forte artillerie, dont il se promettait beaucoup pour un jour de bataille. Il fallait la faire monter et descendre par des sentiers abrupts, où jamais, dit la chronique de la Trémoille, char ni charrette n'avait passé. Le roi, sachant que le seigneur de la Trémoille, pour sa hardiesse et son grand vouloir, ne trouvait rien impossible, lui donna cette charge que volontiers il accepta. Et afin que les gens de pied, Suisses, Allemands et autres, s'y employassent sans craindre le chaud, il leur adressa telle parole. « La propre nature d'entre nous des Gaules est force, hardiesse et férocité. Nous avons triomphé au venir. » Mieux nous serait mourir que par lâcheté perdre la douceur de cette louange. Tous, nous sommes en la fleur de notre âge et en la vigueur de nos ans. Que chacun mette la main à l'œuvre à tirer les charrois, porter boulets. Le premier qui gagnera le plus haut de la montagne avant moi aura 10 écus. Quittant son armure, la Trémoille, en chausse et en pourpoint, mit lui-même la main à l'œuvre. À force de tirer et de pousser, l'artillerie parvint au haut de la montagne. On eut plus de peine encore à la faire descendre de l'autre côté sur une pente très étroite et roide. 5 jours entiers furent employés à ce rude labeur qu'heureusement les généraux ennemis n'essayèrent pas de troubler. La Trémoille, noire comme un mort, dit la chronique, pour l'exténuante chaleur qu'il avait supportée, en fit rapport au roi, qui lui dit « Parle aujourd'hui, mon cousin, vous avez fait plus que ne purent que faire Hannibal de Carthage ni César au danger de votre personne que vous n'avez voulu épargner à me servir, moi et les miens. Je promets à Dieu que si je puis vous revoir en France, les récompenses que j'espère vous faire seront si grandes que les autres y acquerront une nouvelle étude à me bien servir. » Charles VIII avait raison de bien traiter les braves. Le jour était venu où il allait avoir besoin d'eux et de toute leur bravoure. Ce fut dans le duché de Parme, près du bourg de Fornoux, sur la rive droite du Tarot, affluent du Pô, que l'armée française et l'armée italienne se rencontrèrent, le 5 juillet 1495. L'armée française était forte de 9 à 10 000 hommes, menant à leur suite 5 ou 6 000 serviteurs ou conducteurs d'équipage. L'armée italienne comptait au moins 30 000 hommes, bien pourvus et bien reposés, tandis que les Français étaient fatigués d'une longue route et fort mal approvisionnés. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un violent orage éclata sur la contrée. Pluie, éclairs et tonnerre si grands, dit Comines, qu'on ne saurait dire plus. Semblait que le ciel et la terre fondissent ou que cela signifiait quelque grand inconvénient à venir. Le lendemain, à 6 heures du matin, Charles VIII entendit la messe, communia, monta à cheval et se mit en marche vers son corps d'armée. « Je vins à lui, dit Comines, et le trouvai armé de toutes pièces et monté sur le plus beau cheval que j'ai vu de mon temps, appelé Savoie. Le duc Charles de Savoie le lui avait donné. Il était noir et n'avait qu'un œil. C'était un moyen cheval de bonne grandeur pour celui qui était dessus. Semblait que ce jeune homme fût tout autre que ne portait sa nature, ni sa taille, ni sa complexion, car il était fort craintif à parler et ainsi est encore aujourd'hui. Ce cheval le montrait grand. » Et il avait le visage bon et de bonne couleur, et la parole audacieuse et sage. Apercevant Comines, le roi lui dit « Allez voir si ces gens voudraient parlementer. » Sire, répondit Comines, je le ferai volontiers, mais je ne vis jamais deux si grosses compagnies si près l'une de l'autre qui se départissent sans combattre. Il alla pourtant aux avant-postes vénitiens et son trompette fut admis auprès du marquis de Mantoue qui commandait l'armée italienne. Mais déjà on escarmouchait de tous côtés et le premier coup de canon retentit précisément pendant que le marquis lisait la lettre de Comines. « Il est trop tard pour parler de paix, » dit-il, et le trompette fut renvoyé. Le roi avait rejoint le corps d'armée à la tête duquel il devait combattre. « Messieurs, » dit-il aux hommes d'armes qui se pressaient autour de lui, « ne voulez-vous pas vivre ou mourir ici avec moi ?» Et élevant la voix pour être entendu des troupes, « ils sont 10 fois autant que nous, mais vous valez 10 fois mieux qu'eux. Dieu aime les Français, il est avec nous et bataillera pour nous. J'ai eu jusqu'à Naples victoire sur mes ennemis. » Je vous ai amené ici sans honte ni blâme. Avec l'aide de Dieu, je vous reconduirai en France à notre honneur et à celui de notre royaume. » Les hommes d'armes firent le signe de la croix, les fantassins baisèrent la terre, le roi arma quelques chevaliers, selon l'usage, avant d'en venir aux mains. Les escadrons du marquis de Mantoue approchaient. « Sire, dit le bâtard de Bourbon, il n'est plus temps de s'amuser à faire des chevaliers. L'ennemi vient en force, allons à lui. » Le roi donna l'ordre de charger, et la bataille s'engagea sur tous les points. Elle fut très chaude, mais dura peu, avec des alternatives de succès et de revers pour l'une et l'autre armée. Les deux principaux officiers de l'armée royale, Louis de la Trémoille et Jean-Jacques Trivuls, soutinrent sans plier le choc de troupes beaucoup plus nombreuses que les leurs. « À la gorge, à la gorge !» s'écria la Trémoille après la première rencontre, et ses 300 hommes d'armes fondirent sur l'ennemi dont ils rompirent l'ordonnance. Au milieu de la mêlée, les bagages français furent attaqués par les stradiotes, sorte de voltigeurs grecs recrutés et soudoyés par les Vénitiens. « Laissez-les faire, » dit Trivulse à sa troupe, « leur ardeur pour le pillage leur fera tout oublier et nous en aurons bien meilleur marché. » Un moment, le roi avait devancé le gros de sa garde sans regarder si elle le suivait de près. Il n'était plus qu'à une centaine de pas du marquis de Mantoue, qui, le voyant peu accompagné, le chargea à la tête de sa cavalerie. « N'est possible, dit Comines, de plus hardiment donner qu'on ne le fit des deux côtés. Le roi, serré de très près, se défendait ardemment contre ceux qui voulaient le prendre. Le bâtard Mathieu de Bourbon, son frère d'armes et l'un des plus vaillants chevaliers de l'armée, s'était porté à 20 pas en avant de lui pour le couvrir et venait d'être fait prisonnier par le marquis de Mantoue lui-même, quand un gros de troupes royales arriva à leur aide et les délivra de tout péril. Ce fut là que Pierre du Terrail, le chevalier de Bayard, à peine âgé de 20 ans et destiné à une si belle gloire, fit ses premières armes. Il eut 2 chevaux tués sous lui, prit un étendard et le présenta au roi qui, après la bataille, lui fit présent de 500 écus. Charles VIII resta maître du champ de bataille. On voyait encore, dit Comines, hors de leur camp, grand nombre d'hommes d'armes dont on apercevait seulement les lances et les têtes et aussi des gens de pied. Le roi mit en conseil s'il devait chasser contre cela ou non. Quelques-uns furent d'opinion que l'on marcha contre eux. Mais les Français ne furent point de cet avis. Ils disaient qu'on avait assez fait, qu'il était tard et qu'il fallait se loger. La nuit approchait, cette compagnie qui était devant nous se retira dans leur camp et nous allâmes loger à 1/4 de lieue de là où avait été la bataille. Le roi descendit en une métairie pauvrement construite, mais il s'y trouva nombre infini de blé en gerbe dont toute l'armée profita. Quelques autres maisonnettes y avaient auprès qui peut servir. Chacun logea comme il put, sans faire nul quartier. Je sais bien que je couchais en une vigne bien étendue sur la terre, sans autres avantages et sans manteau, car le roi avait emprunté le mien le matin. Qui eut de quoi fit collation, mais bien peu en avait, si ce n'était quelques lopins de pain pris au sac d'un valet. Je vis le roi en sa chambre, où il y avait des gens blessés qu'il faisait habiller. Il faisait bonne mine, et chacun se tenait à bon marchand, et n'étions point tant en gloire comme peu avant la bataille, parce que nous voyons les ennemis près de nous. 6 jours après la bataille, le 12 juillet, le roi écrivit à sa sœur la duchesse Anne de Bourbon, « Ma sœur, mamie, je me recommande très fort à vous. J'écris à mon frère comment j'ai trouvé en mon chemin une grosse armée que le seigneur Ludovic, les Vénitiens et leurs alliés m'avaient préparée, croyant me garder de passer. » À quoi, avec l'aide de Dieu, il a été tellement résisté que je suis venu jusqu'ici sans avoir rien perdu. Au surplus, je fais la plus grande diligence que faire se peut pour passer outre, et j'espère de bref vous voir ce que je désire afin de vous conter bien au long tout mon voyage, et adieu ma sœur mamie, qui vous est en sa garde. L'une et l'autre armée se dirent et pouvaient se dire victorieuses, car elles avaient l'une et l'autre réussi en partie dans leur dessein. Les alliés italiens voulaient chasser définitivement d'Italie Charles VIII, qui s'en retirait volontairement. Mais pour que sa retraite fût définitive, il fallait que ce fût une défaite, que son armée fût battue et peut-être lui-même prisonnier. Dans cette vue, ils tentèrent de lui barrer le passage et de le vaincre sur le sol italien. Ils y échouèrent. Resté maître du champ de bataille, Charles passa librement et couvert de gloire, lui et son armée. Il sortait d'Italie, mais il en sortait avec le sentiment de sa supériorité guerrière et l'intention d'y revenir, mieux instruit et mieux pourvu. Les alliés italiens triomphaient, mais sans sécurité, sans éclat. L'entreprise de Charles VIII n'était évidemment que le commencement des ambitions, des invasions et des guerres étrangères dans leur belle patrie. Le roi de France et ses guerriers n'avaient pas réussi à la conquérir, mais ils avaient été charmés de ce séjour. Ils avaient déployé dans leur campagne des qualités chevaleresques, plus brillantes et plus fortes que la duplicité savante et la mollesse élégante des Italiens du XVe siècle, et après la bataille de Fornoux, ils rentrèrent en France justement fiers et follement confiants, malgré leur insuccès. Charles VIII régna encore près de 3 ans après son retour dans son royaume. Et dans les 2 premières de ces années, il passa son temps moisivement préoccupé de ses projets pour une nouvelle invasion en Italie et frivolement adonné à ses plaisirs et aux fêtes de sa cour, qu'il promenait de Lyon à Moulins, à Paris, à Tours et à Amboise. Les nouvelles qui lui venaient d'Italie furent de jour en jour plus mauvaises. Le comte de Montpensier, qu'il avait laissé à Naples, ne put s'y maintenir et y mourut prisonnier le 11 novembre 1496, après s'être vu chassé de place en place par le roi Ferdinand II, qui rentra peu à peu en possession de presque tout son royaume, pour y mourir aussi le 6 octobre, laissant à son oncle et à son successeur, Frédéric III, l'honneur de reprendre les 4 dernières places occupées par les Français. Charles ordonna la formation d'une nouvelle armée d'invasion, et le duc d'Orléans fut désigné pour la commander. Il éluda cette mission. Le jeune dauphin, Charles Orlan, âgé de 3 ans, venait de mourir. Bel enfant et audacieux en parole, dit Comines, et qui ne craignait point les choses que les autres enfants ont coutume de craindre. Devenu ainsi l'héritier du trône, le duc Louis d'Orléans ne se souciait pas d'aller au loin courir les aventures. Il se dit prêt néanmoins à obéir à un ordre exprès du roi si on lui donnait le titre de lieutenant général. « Je ne l'enverrai jamais à la guerre par force, » dit Charles VIII, et il n'en fut plus question. Tout en parlant toujours de la guerre qu'il projetait, Charles s'occupait plus souvent et plus sérieusement qu'il ne l'avait fait jusque-là de l'intérieur de son royaume. Il avait mis en son imagination, dit Comines, de vouloir vivre selon les commandements de Dieu et mettre en bon ordre la justice et l'Église. Il voulait aussi ranger ses finances, de sorte qu'il ne leva sur son peuple que 1 200 000 francs et par forme de taille, outre son domaine sur lequel il voulait vivre, comme faisaient anciennement les rois. Ses 2 prédécesseurs, Charles VII et Louis XI, avaient ordonné la collection et la révision des coutumes locales, si souvent la règle de la justice civile. Mais ce travail n'avançait pas. Charles VIII, par une ordonnance du 15 mars 1497, en abrégea les formalités et empressa l'exécution, qui ne fut complète que sous le règne de Charles IX. Par une autre ordonnance du 2 août 1497, il organisa et régla dans ses attributions, comme dans sa composition, le Grand Conseil du Roi, souveraine juridiction et administrative qui fut fixée à Paris. Il commença même à vouloir réformer sa propre vie. Il fit rechercher comment Saint-Louis procédait en donnant audience au pauvre peuple. Son intention, disait-il, était de suivre désormais les traces du plus justicier de nos rois. Il mit sus, dit Comines, une audience publique où il écoutait tout le monde, et paraît spécial les pauvres. Je l'y vis 8 jours avant son trépas, 2 bonnes heures et on que depuis ne le vit. Il ne se faisait pas à grandes expéditions à cette audience, mais au moins était-ce tenir les gens en crainte, et paraît spécial ces officiers dont il avait suspendu quelques-uns pour pillerie. C'est trop souvent le sort des hommes que la vie leur échappe au moment où ils commençaient à en faire un meilleur usage. Le 7 avril 1498, Charles VIII voulut, après son dîner, descendre avec la reine dans les fossés du château d'Amboise pour y voir jouer à la pomme. Ils passèrent par une galerie dont la porte était très basse. Quoique petit de taille, le roi s'y heurta le front. Un peu étourdi de ce coup, il ne s'arrêta cependant pas, regarda longtemps les joueurs, parla même à plusieurs personnes, mais vers 2 heures après-midi, en traversant une seconde fois ce passage pour entrer au château, il tomba à la renverse et perdit la parole et le sentiment. On le coucha sur une pauvre paillasse dans cette galerie où chacun entrait et sortit à son gré. Il expira au bout de 9 heures dans ce misérable lieu. Lui qui avait tant de belles maisons et en faisait à Amboise une si belle, dit Comines, tant c'est peu de choses que notre misérable vie, qui tant nous donne de peine pour les choses du monde, et les rois n'y peuvent résister non plus que les laboureurs. J'arrivai à Amboise 2 jours après son trépas. J'allai dire mon oraison là où était le corps, et j'y fus 5 ou 6 heures. Et, à la vérité, on ne vit jamais semblable deuil, ni qui tant dura. Il était si bon qu'il n'est possible de voir meilleure créature. La plus humaine et douce parole qui jamais fut était la sienne. Je crois que jamais à homme ne dit chose qui lui dût déplaire. Et à meilleure heure ne pouvait-il jamais mourir pour demeurer en grande renommée par histoire et en regret de ceux qui l'ont servi. Je crois que j'ai été l'homme à qui il a plus fait de rudesse. Mais connaissant que ce fut en sa jeunesse et que cela ne venait pas de lui, je ne lui en sus jamais mauvais gré. Je ne sache pas qu'aucun roi ait jamais été ainsi loué pour sa bonté, et pour sa bonté seulement, par un homme qu'il avait à ce point maltraité, et qui, en même temps, aussi judicieux et aussi indépendant qu'équitable, disait de ce même roi « Il n'était pas plus pourvu de sens que d'argent, et il ne pensait qu'à passer temps et à ses plaisirs. »